Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France.
Bonsoir à tous chers amis, bienvenue dans les vraies voix qui font bouger la France. À partir de 19h30, parlons vrai avec les entrepreneurs. Vous retrouverez Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur Bismart en compagnie de ses invités. Mais d'abord, place aux voix de la politique. C'est dans quelques instants avec Nicolas Corato et Maxime Bigot. Toute l'actualité de la politique et notamment, et Maxime Thiébaud, pardonnez-moi, toute l'actualité de la politique et notamment l'élection présidentielle. Et si c'était lui le seul qui pouvait nous éviter un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France. C'est le seul à peu près surnager dans les sondages et notamment une dernière enquête IFOP Fiducial pour Sud Radio et le journal du dimanche qu'on vous révélera dans quelques instants. A tout de suite.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de la politique.
Les voix de la politique sur Sud Radio jusqu'à 19h30 avec Maxime Thiébaud. Bonsoir à vous, Maxime.
Bonsoir, Jean-Marie.
Docteur en droit, auteur du livre Gilets jaunes vers une démocratie réelle. C'est publié chez VA Presse. Nicolas Corato, confiné chez lui, est avec nous en direct sur Sud Radio. Bonsoir à vous, Nicolas.
Bonsoir Jean-Marie, vous m'entendez ?
On vous entend très bien, on vous voit même pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent sur le Facebook Live de Sud Radio. Je le rappelle, Nicolas Corato, fondateur du think tank Place de la République, auteur du livre Grandes plaidoiries et grands procès, l'art de l'éloquence depuis le 15e siècle, c'est publié chez Eredium. Je le disais, et si c'était lui finalement ce fameux troisième homme qui pourrait nous éviter eh bien, ce duel tant annoncé, tant présenté comme inévitable, celui qui devrait opposer Emmanuel Macron, le président de la République, à Marine Le Pen en 2022 au second tour de la présidentielle, une revanche en quelque sorte de l'élection de 2017. Et si Xavier Bertrand était le mieux placé pour pouvoir y arriver, dans tous les possibles cas de figure testés par la dernière enquête IFOP Fiducial pour Sud Radio et pour le journal du dimanche, Xavier Bertrand est le seul à, dans au moins un cas, pouvoir atteindre les 20% au premier tour de l'élection présidentielle. Tous les autres, qu'ils soient de droite ou de gauche, n'atteignent même pas les 15%, voire les 10% dans certains d'entre eux. Il faut dire aussi que Xavier Bertrand est le seul à s'être, l'un des seuls, à s'être officiellement déclaré candidat pour l'élection présidentielle. Candidat crédible ou pas, Nicolas Corato ?
Vous oubliez une petite chose, Jean-Marie. Oui. Ils n'ont pas tous été testés. Il en manque un. Vous savez, il manque l'homme libre mais loyal, ou loyal, mais libre. Vous savez, cet homme qui est apparu sur les plateaux de France Télévisions chez Monsieur Delahousse il y a quelques jours et qui aurait pu être testé. Il manque Édouard Philippe. Parce que j'ai envie de dire que si Édouard Philippe était testé, on parlerait pas ce soir de Xavier Bertrand. Mmh.
Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de figures de candidats possibles d'après vous qui pourraient y aller et qui pourraient du coup être de candidats sérieux. On est d'accord?
Oui, j'ai l'impression que là, on a fait une place particulière à Xavier Bertrand dans ce sondage. Parce qu'il s'est présenté, mais Édouard Philippe n'a pas dit qu'il n'y allait pas.
Non, il n'a pas dit non plus qu'il y allait.
Voilà, et Madame Hidalgo, qui est testée, ne s'est pas présentée non plus. Arnaud Montebourg, qui est testé, ne s'est pas présenté non plus.
Si Anne Hidalgo regarde en détail le sondage qui lui donne un score qui est aussi autour de 10%, il n'est pas certain qu'elle aille au bout de sa candidature, effectivement.
Voilà. Valérie Pécresse est testée, mais ne s'est pas présentée. Moi, je suis un peu étonné qu'Édouard Philippe n'ait pas été testé dans ce sondage, qui fait du coup la belle part à M. Bertrand, qui est effectivement aujourd'hui le seul homme à droite qui paraît un petit peu sérieux, un petit peu cortiqué, un petit peu vertébré, qui se prépare à cette échéance depuis longtemps, qui a toujours dit qu'il s'y préparait, qui a averti d'ailleurs, il y va pas en klaxonnant, mais il y va sérieusement, de manière très rationnelle, en travaillant. Donc, moi, je suis pas étonné de le voir surgir, entre guillemets, dans ce sondage. Je me pose quand même la question de savoir si tout ça est bien sérieux, c'est-à-dire, en gros, si demain Édouard Philippe se présente avec ou sans ou contre ou sans Emmanuel Macron, est-ce que on ne regrettera pas d'avoir eu cette conversation ce soir qui est toujours agréable, mais qui pourrait reposer sur du sable?
Donc pour vous, ça repose pour l'instant sur rien. Maxime Thiébaud.
Je rejoins Nicolas sur la candidature éventuelle ou pas d'Édouard Philippe. C'est-à-dire que si Édouard Philippe y va...
Quand je parle de Xavier Bertrand, tous les deux, vous êtes formidables, vous me parlez tous d'Édouard Philippe.
Non, mais je rebondis par rapport à ce qu'il vient de dire, c'est pour ça. Si Édouard Philippe se présente avec Emmanuel Macron, candidat sortant, et que Xavier Bertrand se maintient aussi... Ça fait beaucoup. Ça fait quand même beaucoup de monde. Et il est certain, à mon avis, qu'Édouard Philippe et Xavier Bertrand viendraient à se neutraliser. Bon. Je pense pas que tu aurais d'issue favorable ni pour l'un ni pour l'autre. Par contre, si Édouard Philippe se présente alors qu'Emmanuel Macron n'est pas candidat sortant, Je pense paradoxalement que qu'Edouard Philippe serait assez haut, même très très haut. Et il
arriverait bas des records de popularité aujourd'hui, ce qui est assez surprenant d'ailleurs quand on se souvient que c'est le Premier ministre d'une part des Gilets jaunes, d'autre part de la réforme des retraites. Maxime.
Oui, parce qu'il est parti au bon moment, il a une belle image, il a un élan qui rappelle un peu le chiracisme, il a quelque chose qui fait qu'à mon avis, il ferait un très bon score au premier tour
s'il se présentait sans Emmanuel
Macron. Parce qu'il y a un côté légitimiste chez les électeurs, en tout cas sur son électorat. Bah. Et si Emmanuel Macron est candidat, je pense
Revenons-en à Xavier Bertrand. Mais c'est la seule chose qui soit certaine, à moins qu'il perde les élections régionales d'ici quelques mois. D'ailleurs, elles devraient avoir lieu en juin, si en tout cas le gouvernement suit l'avis des maires qui ont été consultés. Xavier Bertrand, président, ancien membre des Républicains, mais toujours de droite, de la région des Hauts-de-France. C'est lui qui avait battu non pas de justesse, mais avec beaucoup de difficultés, Marine Le Pen, aux dernières élections régionales. Est-ce que c'est un président crédible ?
La crédibilité, c'est une question qu'on mesure au nombre de voix dans les urnes.
Oui, ça, c'est un peu facile après coup.
Non, mais il ne faut pas oublier que Xavier Bertrand a gagné la région avec les voix aussi de la gauche.
C'est ce que je disais.
Et donc, il y a une partie de la droite qui ne va pas oublier qu'il est capable de toutes les alliances. Alors qu'on sait quand
même... C'était contre Marine Le Pen.
Oui, mais vous avez une grande partie de la droite aussi qui n'est pas en désaccord avec les idées de Marine Le Pen et qui n'est pas en désaccord avec l'idée de travailler avec Marine Le Pen.
Il se trouve pourtant que cette droite-là a voté Xavier Bertrand au second tour des régionales la dernière fois. En tout cas,
en étant en 2015. Mais il y a un vrai, à mon sens, aujourd'hui, il y a un vrai schisme à droite entre une droite plutôt nationale qui serait capable de voter Marine Le Pen et qui est en tout cas en parfait désaccord avec une droite que représente un peu plus Xavier Bertrand et qui peut aller capter un électorat Champ en Marche, qui peut aller capter un électorat à gauche et qui en tout cas a cet ADN-là. Et en même temps, là où j'ai pas tout à fait raison non plus, c'est que Xavier Bertrand a ouvert sur cet électorat de droite en allant chercher des gens comme Guillaume Pelletier qui amène les idées souverainistes. Donc il arrive à créer comme ça...
Guillaume Pelletier d'ailleurs qui dans sa jeunesse était membre du Front National, ça s'appelait comme ça d'ailleurs à cette époque, c'était
Ensuite
chez Philippe de Villiers.
Et donc il arrive comme ça à créer une petite émulation qui peut être intéressante. La vraie question c'est qu'il faut en tout cas être deuxième ou premier. Bon. Et je pense que son principal adversaire, et c'est paradoxal, à Xavier Bertrand pour être au second tour de la présidentielle, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Je pense que Nicolas Dupont-Aignan capte 2-3% de l'électorat, parce qu'on le voit, il a 5, hein, il capte 5 en
plus
permanence.
Plus ou moins, en général.
Il capte, quand on analyse vraiment les reports de voix, on voit que Nicolas Dupont-Aignan fait toujours 2-3% à droite. Il a empêché notamment l'accession de Fillon en 2017 au second tour de la présidentielle. Et donc, il peut empêcher une accession de Xavier Bertrand au second tour.
Ou n'importe quel candidat de droite. Et alors, revenons justement à ce sondage. Vous m'avez tous les deux objecté, alors pourquoi on n'a pas testé Edouard Philippe? Pourquoi pas d'ailleurs poser cette question, sauf qu'Edouard Philippe, même s'il provient des Républicains, il est quand même ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, donc il fait partie officiellement de la majorité. Il a beau être à droite d'En Marche, peut-être à droite d'En Marche, qu'il en soit membre ou pas, ça reste quand même un macroniste, Edouard Philippe, officiellement aujourd'hui. Comment on explique, vous avez rappelé que beaucoup de candidats avaient été testés, Nicolas Corrato, comment on explique que face à Valérie Pécresse, face à Laurent Wauquiez, l'ancien patron des Républicains, face à Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat, face à Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, eh bien, Xavier Bertrand s'en sort nettement mieux, 5 ou 6 points au moins de plus si c'est lui qui se présente à leur place au premier tour. Nicolas Corrato, pourquoi c'est lui ?
Parce qu'il a le profil du parfait candidat de la droite, je dirais, classique.
Plus que Valérie Pécresse ?
Oui, peut-être. Enfin, ça se joue entre les deux. Je pense qu'ils
ont tous
les
deux. Pourtant, il est loin devant. Il est nettement devant.
Oui, il est nettement devant parce que je pense que ça fait plus longtemps qu'il laboure le terrain et qu'il dit clairement qu'il sera candidat à cette élection présidentielle. Donc, moi, ça ne m'étonne pas. D'ailleurs, quand on regarde les détails du sondage, on voit qu'il fait quand même le plein dans son propre camp, c'est-à-dire les militants et les sympathisants
de
des Républicains.
Voilà.
Et c'est bien ça, moi, qui m'inquiète quant à sa capacité de passer la barre du premier tour. C'est ce que disait Maxime, c'est qu'il a du mal à élargir son spectre, qui est déjà très largement mordu par l'électorat d'Emmanuel Macron. Il y a une partie de la droite et du centre-droit qui vote et qui votera pour Emmanuel Macron. On le verra d'ailleurs au régional. C'est le fameux bloc bourgeois. C'est-à-dire que tant que Xavier Bertrand se situe sur ce schéma du bloc bourgeois et qu'il n'arrive pas, et ça c'est leçon du sondage, on voit qu'il n'attire que 10% de l'électorat dit populaire. Oui.
Alors même qu'il est dans une région, il est président d'une région où la population ouvrière est très importante.
Moi, ça m'inquiète même par rapport à sa position de président sortant de la région de France. C'est-à-dire qu'il imprime très très peu dans l'électorat populaire, l'électorat ouvrier, l'électorat précaire, l'électorat qui a du mal à s'en sortir, et on le voit, ça c'est la troisième leçon de ce sondage, alors là, a quasiment définitivement basculé pour le Rassemblement national.
Tout à fait.
C'est-à-dire que les personnes qui ont le moins de qualifications professionnelles, celles qui sont le plus proches de la retraite ou en cours d'insertion professionnelle, tout cela sont passés dans le camp de Marine Le Pen. Et donc, le défi de Xavier Bertrand, qui s'est pourtant présenté à un moment, regardez la manière dont il déclare sa candidature, c'est l'homme du peuple, c'est l'homme qui veut une nouvelle République, c'est l'homme qui est prêt d'ailleurs à renégocier l'Europe, enfin il envoie des signaux très très forts, sécuritaires également, très très forts à cet électorat populaire. Finalement, dans ce sondage, on voit que l'électorat populaire ne le suit pas du tout, voire quasiment pas, 10% de l'électorat populaire, c'est absolument rien. Et moi, je pense que tant qu'il n'aura pas percé dans cet électorat, il n'aura qu'une faible chance d'être présent au second tour, même s'il fait un score intéressant au premier tour. Je rappelle juste, il est crédité de 16% ou mieux, Xavier Bertrand, selon les hypothèses. Au premier tour de 2012, Nicolas Sarkozy fait 27%.
C'est vrai. En 2012, donc, président de la République sortant, Nicolas Sarkozy. François Fillon fait 19%, un peu plus de 19% il y a 5 ans.
Mais voilà, avec Emmanuel Macron qui mord très largement sur le centre. Donc, je pense qu'effectivement, Xavier Bertrand aujourd'hui, ce que montre ce sondage, c'est qu'il est dans la course parmi les favoris, mais qu'il a raté, je dirais, son signal auprès de l'électorat populaire.
Et alors, est-ce que vous êtes en train, alors je sais que c'est votre pire cauchemar, Nicolas Corato, pour vous inviter à peu près toutes les semaines dans les voies de la politique depuis le début de l'année, mais est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a de place ni à gauche, ni à droite d'Emmanuel Macron pour arriver au second tour à la place de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron ?
Non, ce sondage, c'est une très très bonne nouvelle pour la gauche. Parce que la gauche...
Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas un seul candidat qui dépasse les
12%. Quelles que soient les hypothèses, le seul qui sort, c'est Jean-Luc Mélenchon, entre 12 et 13%. Voilà. Toutes les autres hypothèses, d'union autour d'Anne Hidalgo, d'union autour de Yannick Jadot, se cassent la figure, tout simplement, parce que à chaque fois, on réserve l'hypothèse d'un Jean-Luc Mélenchon qui y va tout seul. Donc, la gauche, elle est obligée de s'unir autour d'une candidature qui parle aux classes populaires. La gauche, elle est obligée de présenter une candidature sociale. Le reste, ce sera nécessairement la défaite, la Bérézina, et une chose dans laquelle la gauche ne se relèvera pas avant plusieurs années.
Sachant que l'addition des voix
signal. De gauche... C'est le même signal que pour Xavier Bertrand.
Oui,
si on n'arrive pas à ramener l'électorat populaire vers les partis politiques dits traditionnels, ces partis politiques n'ont plus rien à faire sur l'échiquier.
Sauf que vous le rappeliez, ce sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et le journal du dimanche montrent que l'électorat populaire est très massivement du côté du Rassemblement National et de Marine Le Pen pour ce premier tour. En revanche, vous parliez de bonnes nouvelles pour la gauche, Nicolas Corato, c'est probablement, si l'élection présidentielle avait lieu demain, quel que soit le cas de figure qui est testé dans ce sondage, ce serait le score cumulé le plus faible de toute l'histoire de la gauche depuis le début de la Ve République. Moins de 30%, on n'a jamais vu ça. Jamais. Jamais, ouais, Nicolas Corato.
Mais justement, vous voyez, Jean-Marie, elle n'a pas lieu demain, cette élection. Et moi, je pense que ce qui est important dans les campagnes, c'est la dynamique. Alors, vous allez me dire, la dynamique, quand
vous
on
la voyez aujourd'hui,
non, mais je veux dire, quand on passera de 1 à 2, on aura doublé. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'à gauche, on a une marge de progression et une marge de dynamique beaucoup plus importante. Non, mais blague à part, je pense que ce sondage doit résonner comme un ultimatum pour la gauche, qui doit non pas s'unir pour s'unir, qui doit s'unir pour regagner la confiance de l'électorat populaire, pour regagner la confiance de ceux qui veulent un changement social dans ce pays et un vrai changement social, pas un truc qu'on leur vend pour ensuite appliquer une politique autoritaire.
Effectivement, autre enseignement de ce sondage, là plutôt du côté de la gauche, qui est quand même une énorme surprise. Éric Piolle, le maire Europe Écologie Les Verts de Grenoble, qui ne s'est pas officiellement déclaré, mais qui pourrait concourir à une primaire écologiste, 2% s'il se présente demain au premier tour des élections présidentielles, c'est-à-dire un score absolument calamiteux. Maxime Thiébaud, est-ce qu'il y a une place
Il y a une place
entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron.
Je pense qu'il y a une place pour n'importe qui. Il faut arrêter.
Mais à gauche ou à droite.
Mais je ne crois plus au clivage gauche-droite. Je ne crois plus du tout. On a bifurqué depuis 2017 et des grands auteurs. Hein. Vous prenez Bernard Manin, l'a très bien écrit en expliquant qu'on était passé sur une démocratie de l'opinion. Et aujourd'hui, on répond comme ça à une offre et une demande. Mmh. Et je pense, et Emmanuel Macron l'a très bien démontré, qu'il a su correspondre à une attente et il est devenu président de la République. Bon, tout est possible. Il suffit aujourd'hui de répondre à une attente qui est celle de la part des Français d'avoir quelqu'un en dehors de tout le système. Mmh. Je pense que l'idée de l'ancien monde qu'on ne veut plus de 2017 est toujours présente dans l'idée des Français. Et que
cette
les Français,
idée qui a fait le bonheur d'En Marche et d'Emmanuel Macron.
Qui a fait
Macron.
Le bonheur d'Emmanuel Macron. Mais les Français se sont dit, Emmanuel Macron, en fait, on pensait qu'il était en dehors du système, alors qu'il en est la synthèse. Mmh. Bon. Mais cette idée-là, elle reste. C'est-à-dire qu'on ne veut plus du PS, on ne veut plus de la droite UMP, des vieux partis, on veut quelque chose de nouveau, continue d'exister chez les Français. C'est pour ça que Marine Le Pen reste haut, mais qu'elle n'explose plus comme avant. C'est-à-dire qu'elle est haute, mais elle n'est plus à des scores qu'elle avait dans certains sondages en 2012 ou même en 2015.
Elle est entre 20 et 25% à peu près au premier tour. En revanche, là où elle est beaucoup plus haute qu'avant, et à moins d'un an de l'élection, à un an à peu près de l'élection présidentielle, elle est donnée à 46% au second tour contre Emmanuel Macron, qui est le président sortant. En revanche, elle n'a jamais été aussi haute au second tour.
Elle a été très haute en 2017 et elle aurait été bien plus haut, je pense. On aurait eu une victoire d'Emmanuel Macron bien, bien moins grande si elle n'avait pas raté le débat. Marine Le Pen, elle est arrivée à se créer un vrai socle à droite. Mmh. C'est-à-dire qu'elle est devenue une sorte de RPR des années 90. Elle réussit son pari, ce qui fait que elle sait que son but, c'est plus d'être au premier tour de la présidentielle. Son but, c'est d'ouvrir les vannes pour gagner le second tour et d'être capable de récupérer des gens crédibles à droite qui ont été ministres, qui sont des parlementaires reconnus, etc., pour pouvoir composer une vraie alliance de second tour, en tout cas, et un gouvernement, et annoncer un gouvernement à une semaine du second tour de la présidentielle de 2022. Ça, elle l'a compris. Donc, elle a créé son truc, elle est sur sa ligne, et je pense que c'est là où Emmanuel Macron fait une grande erreur de croire qu'il gagnera dans tous les cas face à elle au deuxième tour de la présidentielle.
C'est dangereux.
Je pense que un, c'est dangereux, et que deux, pour lui, c'est dangereux, et que deux, pour Marine Le Pen, c'est une vraie chance que d'avoir un adversaire faible qui croit en sa victoire, en sa propre victoire, avant même de comprendre qu'il peut perdre. Mais je pense que tout est possible. On va faire de la politique fiction pour faire un très bon score. En termes numéraires, à l'élection présidentielle, en tout cas au nombre de voix au premier tour, vous faites 1 million de voix, vous êtes à 7-8%. Hein. Vous prenez un candidat très anti-Covid. Pas anti-Covid, mais anti-mesures sanitaires.
Un Florian Philippot.
Florian Philippot, ou peu importe, mais un candidat qui serait... Oui. Il faut réunir les 500 parrainages déjà, c'était pas évident, mais vous prenez un candidat qui est anti-mesures sanitaires. Imaginez encore 6-7 mois comme ça, à traîner avec des mesures sanitaires qui sont mal appliquées, mal expliquées, etc. Vous pourriez avoir ce candidat qui surprendrait tout le monde, qui ferait un très bon score, où les gens se disent on en a eu ras-le-bol, parce que tous les partis politiques ont été plus ou moins d'accord avec les mesures de restriction, et puis après tout, pourquoi pas lui ? Et donc, c'est pour ça, c'est ce que je disais en préambule, vu qu'on est dans une politique maintenant d'opinion, s'il y a un candidat qui arrive à être crédible, qui se distingue par ses idées, qui montre qu'il n'a pas été dans ce système-là,
n'importe qui peut
sortir
du chapeau.
Bon score. Ouais. Moi, ça, j'y crois complètement.
Nicolas Corato.
Sors complètement de cette idée gauche-droite.
Nicolas Corato, vous êtes plutôt d'accord ?
Plutôt d'accord et pas d'accord. Rien n'est calé aujourd'hui. Tout est possible. L'arrivée de nouveaux candidats, en revanche, le clivage droite-gauche, moi j'y crois plus que jamais. Y a un vrai sujet. Je reviens sur Marine Le Pen, si vous permettez, parce que je suis pas du tout d'accord avec Maxime. Marine Le Pen, je veux bien qu'elle ce soit le RPR des années 80, mais enfin c'est le RPR sans la République, quoi. Enfin, je veux dire. Je veux dire qu'on garde les outrages du RPR des années 80, mais on enlève la République parce que
le RPR de
Charles Nationale, c'est la fin de la République et ça, il faut le dire une fois pour toutes. Voilà. Donc ça, c'est un vrai sujet. Deuxièmement, pardon Maxime, mais Marine Le Pen n'a pas réussi son OPA sur les cadres et les élus de la droite. Pardon. Mais enfin, je vois même l'échec de l'arrivée de Jean Messia, qui était annoncé comme le grand Manitou, cet énarque qui allait enfin structurer. Jean Messia aujourd'hui ne fait plus partie de l'état-major du Front National. Et le Front National, pardon, le Rassemblement National, et n'a pas réussi son OPA sur les cadres ni sur les élus.
On peut citer deux exemples et je vous redonne la parole juste après, Nicolas Corrado.
Sauf si on considère que Thierry Mariani est une capture de premier
ordre.
Vous allez
le dire justement pour le rappeler.
Il n'était pas considéré dans son propre camp. Donc
justement pour le rappeler, pardonnez-moi tous les deux, Nicolas Corrado, je vous redonne la parole juste après. Thierry Mariani, qui est un ancien député des Républicains, c'était la droite populaire, l'aile droite des Républicains à l'époque, tête de liste Rassemblement National en région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Jean-Paul Garot, ancien magistrat de droite et député des Républicains de la Gironde, qui est tête de liste pour le coup en Occitanie. Vous avez un ancien vice-président de Debout la France chez Nicolas Dupont-Aignan. Laurent Jacobelli, pour sa part, est tête de liste dans la région Grand Est. Il y a une certaine ouverture.
Jean-Marie, mais Nicolas, vous êtes un grand spécialiste de la vie politique de ce pays, mais même vous n'arrivez pas à sortir plus de 5 noms. Et par ailleurs, pas de premier ordre. Donc, ce parti qui a essayé, qui a tout fait pour se notabiliser, n'est pas arrivé jusqu'au bout de son cheminement.
Et du coup, elle n'a aucune chance de gagner pour vous, Marine Le Pen.
Nicolas Corrado,
vous dites qu'elle n'a pas réussi à se notabiliser, que le Front National est toujours le Front National et que du coup.
Je pense que malheureusement, celui qui a la réponse à la question que vous posez, Jean-Marie, je dis malheureusement, c'est Emmanuel Macron.
Mmh. Oui.
Non, mais c'est Emmanuel Macron qui a la réponse à la question de savoir si Jean-Marie Le Pen est en capacité de gagner ou pas au second tour en 2017, en 2022. C'est lui qui a la réponse. Mmh. Et c'est bien la difficulté dans laquelle nous sommes, nous, citoyens, c'est-à-dire de nous retrouver bloqués dans un schéma imposé par un président de la République qui ensuite aura la capacité ou pas, et lui seul, d'empêcher l'élection de Marine Le Pen. C'est un vrai piège, et c'est pour ça que, malgré tout, je trouve que l'immixtion, l'arrivée d'un profil comme Xavier Bertrand, qui fait 16% et qui est donc en pleine dynamique au premier tour, peut être intéressante pour la suite. Ça peut nous dire que finalement, c'est possible. Il est possible de remettre en cause ce duel infernal.
Qui aurait cru entendre un jour Nicolas Corrado dire la bonne nouvelle, c'est qu'un candidat des Républicains ou ancien membre de la droite peut-être arriver au second tour. Pour le coup, c'est vrai qu'on sent que vous avez passé 4 années difficiles pour vous, mon cher Nicolas Corrado, avec Emmanuel Macron au pouvoir.
Pas que 4, malheureusement, mon cher Jean-Marie.
Maxime Thiébaud, le mot de la fin avec vous. D'abord, revenons à Marine Le Pen. A-t-elle vraiment une chance de gagner?
Je n'ai jamais dit que Marine Le Pen avait capté aujourd'hui les cadres des Républicains. J'ai dit qu'elle est en capacité de les rassembler dans le cadre du second tour. C'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il ne bouge pas, parce que naturellement, personne ne veut bouger pour le moment. Mais dans le cadre d'un second tour, avec une belle dynamique de sondage, ce que nous annoncent déjà les sondages aujourd'hui, Marine Le Pen est capable de réunir. Et la nuance est quand même importante. On parle de gauche, de droite. Et moi, je suis désolé, je ne crois plus au clivage tel qu'il est défini. Pourquoi ? Parce que je suis désolé, Marine Le Pen, aujourd'hui, représente davantage les idées de gauche de représenter M. Mélenchon qui défile avec des islamistes radicaux.
Vous savez que c'est le mot de la fin et que Nicolas Corrado n'aura pas le temps de vous répondre.
La lutte des races, une lutte supérieure à la lutte des classes. Donc, et je pense, paradoxalement, que si l'extrême droite s'était aujourd'hui déplacée, elle s'est plutôt déplacée chez M. Mélenchon, et si la gauche s'était déplacée, elle s'est plutôt déplacée chez Mme Le Pen.
L'exercice de style, parce que vous savez qu'on n'aura plus le temps de vous répondre.
Pascal Bruckner l'écrit très bien, il y a plusieurs auteurs qui l'écrivent, la gauche et la droite, c'est toujours redéfini dans l'histoire de France, et on n'est pas
exempté
de ce principe-là.
En un mot, Marine Le Pen a une vraie chance de gagner, plus qu'il y a 5 ans.
Mais tout le monde a une chance de gagner, Marine Le Pen a une chance de gagner. Oui, parce que là, on a vraiment eu un vrai désastre pendant 5 ans.
Même question, en un mot, Nicolas Corrado. On revient à ce duel Macron-Le Pen. Marine Le Pen a davantage de chances de l'emporter qu'il y a 5 ans.
Oui, parce qu'Emmanuel Macron fait désormais partie du système.
C'est ça. De l'ancien monde, en tout cas le monde du présent, pour le coup. On est encore sous son mandat. Merci beaucoup. Nicolas Corrado, je le rappelle, président fondateur du think tank Place de la République, auteur du livre Grandes plaidoiries et grands procès chez Eredium. Merci Maxime Thiébaud.
Merci Jean-Marie.
Élève avocat, docteur en droit et auteur de ce livre, Gilets jaunes vers une démocratie réelle. C'est publié chez VA Presse. La suite des vraies voix qui font bouger la France. Parlons vrai avec les entrepreneurs sur Sud Radio. Vous retrouvez Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur Bismart.